est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sistas d'une ex-40 comme vous ne les avez jamais entendues. Animé par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sistas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui, on plonge avec notre invité dans un sujet qui nous passionne chez Feuille Blanche, celui de la narration, celle des entrepreneurs, celle de la marque. Les entrepreneurs, c'est aussi le quotidien de mon invité du jour, Caroline Pendreau-Durand. Bonjour Caroline.
Bonjour Solène.
Alors Caroline, tu es la fondatrice, et bonjour pardon, et tu es la fondatrice de Soul. Et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui au micro de 40 nuances de Sista, grâce à la recommandation de Sacha Lazimi, qui est le CEO de Yuwo, qui est passé récemment sur 40 nuances de Next avec Thomas et Olivier. Et Yuwo, je le rappelle, c'est la plateforme de découverte sociale de la Gen Z. Je me suis dit que mieux qu'un pitch, je te proposais de balayer le territoire de marque de Soul en quelques questions.
Ah, intéressant.
Tu me suis ?
Oui, avec plaisir.
Alors Soul, vous faites parler les CEO, en tout cas vous les aidez à mettre en place leur narratif. Qu'est-ce que les CEO peuvent bien avoir à dire à leur communauté, à leurs équipes, leurs clients, leurs prospects, et soyons ambitieux, au monde ?
Ah, intéressant, parce que notre terrain, c'est effectivement la vision de l'entrepreneur. Notre idée de départ, c'était de se dire que les entrepreneurs, au moment où ils créent leur boîte, ils sont tout pleins d'obsession, ils ont une sorte de feu sacré, quelque chose qui les drive et qui les pousse à créer un modèle nouveau. Puis au fur et à mesure de leur évolution, la boîte grandit, puis deviennent CEO, exécutives, et donc sont absorbés par les tâches de direction, les tâches du quotidien, et finalement oublient un petit peu qu'ils ont aussi cette fonction dans l'entreprise, qui est celle de driver l'ensemble du collectif par une vision qui est très forte. Et pour beaucoup, c'est pas tout à fait naturel de le faire, notamment chez les Français à qui on n'a pas tout à fait appris à s'affirmer comme les anglo-saxons.
C'est beaucoup plus systématique dans le milieu anglo-saxon.
Oui, d'avoir des CEO qui vendent avant une boîte une vision du monde. Ils sont capables d'avoir des discours quasiment d'évangélistes. Pour les Français, c'est plus compliqué. Il y a quelque chose de l'ordre de la réserve, mais qui est intéressante et qui nous fait travailler avec eux, quelque chose de l'ordre de la nuance.
Qui tient à cœur aussi.
Oui, exactement. Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Moi, je pense que c'est une fonction importante du rôle de CEO, c'est de porter une vision pour la société. C'est ce qu'on appelle un narratif, c'est quelle est l'histoire qu'on se raconte tous ensemble, donc pas l'histoire de comment on en est arrivé là, ce qu'on appelle la founding story, j'ai eu une idée à tel moment, et puis ensuite j'ai rencontré mon associé, non. Le narratif, c'est quelle est l'histoire qu'on va se raconter ensemble d'un futur possible, qui va nous motiver, nous donner du cœur à l'ouvrage, du sens à l'effort, et qui va nous créer un mouvement pour aller créer un nouveau modèle, un nouveau paradigme. Et ça, c'est important pour de le raconter à des investisseurs, évidemment, qui vont plutôt investir sur des boîtes qui sont visionnaires, pas folles, mais visionnaires. C'est important pour les gens qui travaillent avec soi, parce qu'elles ont besoin de comprendre où elles vont, le sens de chacune des décisions. Et puis, il ne faut pas oublier, alors ça, c'est peut-être des gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, je pense qu'un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise a un rôle, en fait, presque de maître à penser. C'est-à-dire que c'est la personne qui détient un peu l'idéologie de la boîte. On peut travailler dans une entreprise et aller interroger son patron sur, ou sa patronne sur « il se passe ça dans notre marché, qu'est-ce qu'on en pense nous en tant que boîte ? Qu'est-ce qu'on en pense nous en tant qu'équipe ?» Voilà. Et donc c'est important dans la culture d'une entreprise, dans sa façon de manager, d'avoir une vision en avant à raconter. Alors ça ne veut pas forcément dire une vision folle à 30 ans en disant « on aura renversé la Terre et puis il n'existera plus ». De boîtes d'assurance, comme on les a toujours imaginées, etc. Mais quelque chose qui traverse la société.
Et ça, ça demande un petit peu de temps de réflexion pour ces CEO qui sont souvent dans leur machine. Et récemment, quelqu'un nous disait, on me demande de conduire à 180 sur des routes de campagne, ouais, et de montagne. Et là, c'est un moment où il faut quand même un peu se suspendre pour
réfléchir à ces éléments de langage, mais aussi au sujet sur lequel on veut prendre position. Ça, tu l'abordes comment, toi ?
C'est ce qu'on propose, nous, chez Saul, c'est de créer cet espace-temps pour que des CEO puissent forger cette réflexion, affiner leurs convictions et en sortir avec une histoire qui est absolument claire. Claire, visionnaire et efficace. Efficace, c'est-à-dire qu'elle va leur servir à nourrir l'entreprise, à nourrir toutes leurs parties prenantes, leur écosystème, leurs partenaires et leurs clients, évidemment. Et c'est très difficile quand tu es pris dans les sujets du quotidien de te dire « Ok, en fait, je vais m'extraire de ça, prendre une feuille blanche et commencer à écrire cette histoire. » D'abord parce que tu manques de recul sur ton propre bébé. Moi, j'observe effectivement les fondateurs, les fondatrices avec qui je travaille, c'est des gens qui ont 1000 idées à la minute. C'est très difficile pour eux d'arriver à faire le tri entre « j'ai plein d'idées », mais c'est aussi ma fonction dans la boîte, d'avoir plein d'idées pour alimenter le futur, et en même temps avoir une histoire qui est très claire, qui tient dans le temps, qui est vraiment une structure pour les gens qui l'écoutent, et qui montre un discernement, une clarté. Et donc, nous, on leur propose un endroit, un espace, une méthode d'accompagnement, et aussi le fait que, je dis « on » parce qu'on est deux chez Saul, à bosser en binôme, une contrepartie, un sparring partner pour affiner cette réflexion. On apporte aussi des référentiels extérieurs. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dans le monde de la tech, qu'on observe des sociétés en Europe, aussi aux États-Unis. On a beaucoup de modèles à leur contre-exposer. On les écoute, donc on entend leurs contradictions, leurs zones de flou, leurs blocages, les endroits où ils ne veulent pas aller. On essaye de détricoter tout ça pour en faire sortir une clarté. Donc, il y a deux fonctions à ça. Se prendre le temps pour soi, sortir de son quotidien pour le faire. C'est un investissement qu'un dirigeant, une dirigeante doit faire de temps en temps pour la santé de sa boîte. Et avoir le bon accompagnement, la bonne méthode et les bonnes personnes pour le faire.
Pourquoi aujourd'hui, la parole d'un CEO, selon toi, compte davantage, voire plus quelquefois, que la parole de sa marque ?
D'abord parce que je trouve qu'on écoute plus facilement un humain. Je pense que même si on parle de business, moi je suis toujours plus sensible à la parole d'un presque de pair à pair, d'humain à humain. Moi je travaille essentiellement pour des sociétés en B2B. Des plateformes SaaS, des boîtes d'intelligence artificielle, c'est principalement mes clients en B2B. Donc on peut considérer que ce sont des boîtes qui s'adressent à d'autres boîtes pour vendre leurs solutions. En vérité, l'acheteur, de l'autre côté, est également un humain. Et je trouve qu'un discours d'entreprise est plus facilement porté et entendable à partir du moment où ce qu'on porte, c'est un point de vue, une idée, quand elle est portée tout simplement par un humain plutôt que par une affiche. Donc, ça dépend des situations, ça dépend des personnalités des fondateurs et des fondatrices, mais moi, je les engage beaucoup à faire ce qu'on appelle du thought leadership, c'est-à-dire à oser porter leurs paroles, porter leur point de vue, parce que ça va guider leurs équipes et ça va aussi éduquer d'une certaine façon le marché. Et ça, c'est important pour grandir.
Et donner l'exemple à leurs équipes.
Et donc, ce n'est pas seulement la parole du CEO qui est importante. Enfin, je pense que c'est ce que tu sous-entends.
Je te tends une perche.
Oui, tout à fait. Parce que finalement, ce que nous, on appelle un narratif, c'est une histoire à la fois claire, visionnaire et efficace, qui est celle qui émane de la direction, mais qui est celle, en fait, qui va permettre d'aligner toutes les équipes de l'entreprise dans le même sens. Et donc, les entreprises, souvent, qui grandissent vite, ont besoin de s'équiper, et ça c'est un sujet quasiment opérationnel, d'une histoire que chacun est capable d'entendre, de comprendre, de s'approprier. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles on arrive. Généralement, nos clients sont des boîtes entre série A et série C en termes de maturité. Mmh. Donc elles sont pas nées de la dernière pluie, elles ont déjà opéré sur leur marché, elles ont un product market fit, et elles sont superposées les histoires les unes après les autres. Et donc, ils ont plein de choses à raconter. On n'arrive pas dans des boîtes qui n'ont rien à raconter. Il y a généralement trop d'idées. Et donc, il faut d'abord ranger la chambre, faire un peu de clarté, se dire c'est quoi l'idée forte et le narratif qu'on va porter aujourd'hui. Et pour beaucoup de gens dans l'entreprise, c'est une déperdition d'énergie de se balader avec trop d'histoires potentielles. Donc, c'est des sales decks en version 1 à 120, des personnes dans l'entreprise qui se réapproprient l'histoire. C'est bien qu'il y ait un peu d'autonomie, mais quand c'est 3 entreprises différentes ou 100 entreprises différentes qui sont racontées tous les matins, ça n'est pas possible. Donc, c'est aussi un exercice de discipline. Mais pas pour fliquer les gens sur ce qu'ils racontent, c'est justement pour les équiper, pour qu'ils fassent mieux leur boulot.
Mettre tout le monde on board avec la même histoire, les mêmes éléments de langage.
Exactement.
Et la même vision.
Et d'ailleurs, il y a un moment très fort dans nos projets, c'est le moment où donc les CEO révèlent à leur équipe le nouveau narratif sur lequel ils ont bossé avec nous. Donc, c'est un moment où ils ont un peu de stress, un peu de crainte, parce qu'ils se disent, en fait, potentiellement, il va y avoir du pushback. Les gens vont se dire... D'où ça sort, il va falloir qu'on change plein de choses, qu'on adapte tous les supports, qu'on adapte nos... S'il y a un enjeu de marque, qu'on adapte nos campagnes. Oh, on va falloir retravailler le site, enfin reformer tous les sales sur un nouveau discours commercial, etc. En vérité, ce qu'on observe, c'est un grand soulagement. C'est un moment où c'est une sorte de communion autour de la clarté de ce que va faire la boîte sur les prochains mois, les prochaines années. C'est un moment très fort où tout le monde se sent solidaire derrière une histoire et où tout le monde se dit « Ok, je pige beaucoup plus clairement ce que je vais raconter à mon client en pleine confiance parce que cette histoire, elle est forte. Il y a un positionnement qui est radical. Pour les gens qui bossent dans le produit, ils vont se dire « Ok, je vois comment prioriser en fait chaque élément de la roadmap produit. C'est plus clair. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit non à ça ?» pour les équipes de recrutement, de se dire « Ok, on a une histoire forte, en fait, qui est prémisse d'un mouvement et ça va nourrir notre marque employeur. » C'est pas seulement une job desk qu'on va proposer, c'est une histoire, un mouvement qu'on vous invite à rejoindre si vous rejoignez l'entreprise. Donc, ça nourrit les différents organes de l'entreprise.
Et ça resserre les liens, finalement, des différents organes.
Tout à fait, puisqu'en fait, on parle d'une voix commune.
Et lorsque vous travaillez comme ça avec un CEO sur le narratif, est-ce que dans certains cas, ou c'est peut-être systématique, sont onboardés certains autres membres du COMEX?
Oui, alors au début, on a... Enfin, ça, c'est notre parti pris, c'est de travailler cet outil qu'on appelle le narratif, dans tous les cas, avec le ou la CEO, parce qu'on considère que c'est un CEO job de faire ce taf-là et de le porter ensuite dans la durée. Mais néanmoins, c'est pas uniquement une sorte d'introspection de ce qui se passe dans la tête du CEO. C'est important d'avoir plusieurs sources d'informations qui vont venir nourrir ce travail. Alors, on interroge quelques personnes clés sur des fonctions clés dans l'entreprise, donc généralement direction de la vente, direction du customer success, parce qu'ils connaissent très très bien les attentes des clients, direction du marketing, direction produit. Ouais, c'est un peu la... et c'est aussi des personnes qui participent à l'élaboration de la réflexion sur les étapes suivantes. On interroge surtout des clients. En fait, c'est important de croiser la vision du dirigeant avec la vision du marché.
Tout à fait.
Voilà. Louis et moi, on est des anciens consultants en strat. Donc, ce qu'on vient faire, c'est surtout de la stratégie d'entreprise. Et donc, on doit faire rencontrer une entreprise et son marché. Et donc, on interroge généralement sur nos projets entre 5 et 15 clients de notre client. Pas sur la perception de la boîte, est-ce que vous êtes content ou pas, quelle fonctionnalité vous aimeriez avoir, mais plutôt sur, on va chercher de l'insight. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sur votre marché? C'est quoi votre préoccupation métier? Donc, ben, selon les boîtes, on va interroger des CFO, des directions achats, des DRH, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui va vous empêcher de faire vos objectifs à la fin de l'année? Qu'est-ce qui va vous empêcher d'avoir une promotion, etc. pour aller chercher de l'insight? Parce que ce qui est intéressant dans un narratif, c'est pas d'équiper la boîte pour qu'elle arrive à raconter un why us, pourquoi nous, pourquoi on est les meilleurs, pourquoi on a un meilleur produit, pourquoi notre liste de fonctionnalités, elle coche toutes les cases. C'est un why now. On élève la conversation en se disant pourquoi il y a une urgence aujourd'hui sur le marché pour nos clients à changer de solution, à changer de façon de travailler, à changer de mentalité par rapport à leur métier. Et dans ce cas-là, si vous êtes prêts, vous clients, à entendre qu'il y a un nouveau paradigme et qu'il y a une urgence à changer, alors vous allez écouter ce qu'on a à vous offrir parce qu'on va être l'outil, la plateforme, le nouveau playbook pour vous permettre d'arriver à cette nouvelle situation de succès. Donc c'est ce renversement qu'on fait pour nos clients qui nécessitent de beaucoup entendre leurs clients, puisqu'on va moins parler de product, on va plus parler de valeur.
C'est ce qui permet d'élever aussi le discours et de ne pas parler que de son produit, mais du fameux why aussi et du narratif qui va autour.
Exactement, parce que bon, je te le disais, moi je suis spécialisée dans les boîtes tech, donc souvent les entrepreneurs que je rencontre sont des ingénieurs. Et ils sont amoureux de leurs produits. Beaucoup de boîtes pour lesquelles je bosse sont product-driven, qui est la raison d'ailleurs pour laquelle ils attendent un peu longtemps pour se poser ces questions de narratif, en tout cas pour le clarifier. Ça ne veut pas dire que c'est des boîtes dans lesquelles il y a le moins d'idées. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de convictions. Ils n'ont juste pas pris l'habitude d'essayer de les
exprimer comme ça.
De les exprimer, ou qui n'ont pas pris la mesure de la stratégie business qui se cache derrière le fait d'avoir un narratif puissant. Nous, notre conviction avec Louis, c'est de dire, en fait, une boîte, elle est forte, il y a trois choses, un super produit, une super équipe et un super narratif. Pour nous, un narratif, c'est un...
C'est une composante.
C'est une composante stratégique majeure. Et donc, on arrive à un moment où la vision produit, elle est très forte. Comment tu racontes ça dans le langage du client, une attente client? Récemment, on a travaillé pour une boîte qui s'appelle Diplomatique, dont l'histoire est particulière parce qu'ils ont passé 10 ans à faire de la recherche quasiment fondamentale sur l'intelligence artificielle, qu'ils ont appliquée à plein de secteurs, ils ont fait beaucoup de tests, etc., jusqu'à comprendre que leur technologie allait servir le secteur des field operations, c'est-à-dire en gros tous les métiers de terrain. Exemple, par exemple, les techniciens de terrain qui viennent installer la fibre, tu sais, qui ouvrent, ouais, qui font des tranchées sur les trottoirs, qui t'empêchent de passer avec tes poussettes. Et en fait, c'est des chantiers qui se passent souvent mal parce que les branchements sont mal faits, etc. Ils se sont dit, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on va équiper les techniciens qui vont pouvoir, en temps réel,
vérifier si
les branchements sont bien faits, etc. Mais naturellement, parce qu'ils avaient passé 10 ans sur leurs produits, leur discours était très, très orienté produit. Ils étaient à un moment de leur croissance, nouvelle levée de fonds assez importante, etc. Où ils disaient, il faut qu'on arrive à parler à nos clients en termes de use case, de devenir la plateforme d'un use case dans le secteur des field operations. Et ça, c'est l'enquête qu'on a menée pour eux. On a interrogé beaucoup de clients dans ce domaine-là. Donc, des acteurs télécoms, des acteurs des travaux, des boîtes BTP, etc. qui nous ont raconté qu'en fait, leur souci, c'est qu'en fait, ils sont sur un marché en tension. C'est très difficile de recruter des techniciens, de les garder dans le temps, etc. Donc en fait, c'est un marché sur lequel le facteur qualité, avant c'était les gens formés, et le facteur qualité s'est enfui, il n'existe plus. Donc en fait, il faut le remplacer par quelque chose. Et l'indicateur maître dans ce métier, c'est ce qu'ils appellent le first time right, c'est le KPI que tout le monde suit, qui est le taux de complétion des chantiers qui sont bien réalisés dès le premier coup. Et donc, t'essayes, toi, en tant qu'opérateur, de faire élever ton first time right. Et donc, on a positionné Diplomatique en tant que plateforme d'intelligence artificielle qui permet d'augmenter
ce taux,
first time right. Et là, d'un coup, tu ne parles plus de ta technologie, on s'en fiche un peu que ce soit de l'intelligence artificielle. À partir du moment où tu peux avoir une conversation avec ton client sur « Vous en êtes où de votre first time right ?» et « Quels sont vos leviers pour essayer de l'améliorer ?» Vous n'avez pas assez de gars sur le terrain? Oui, nous, on a une solution qui vient faire du contrôle qualité en temps réel pour que vous n'ayez pas à renvoyer des équipes que vous n'avez pas, qui sont un poste de coût super important. Et voilà. Et donc, on avait transformé comme ça un discours très produit à un discours valeur client sur lequel tu peux avoir une discussion avec un C-level. Donc, t'élèves la conversation, mais t'élèves aussi ton niveau d'interlocuteur.
Oui. Et tu travailles ton territoire de marque de manière plus large, parce qu'on ne t'identifie pas à une solution, mais on t'identifie sur un sujet beaucoup plus large.
Voilà, alors nous, notre travail, généralement, avec Saul, il s'arrête au moment où on a ce narratif, ce positionnement qui est très fort, et on passe la main à un partenaire pour traduire ça en un univers de marque, justement. Parce que nous, on est plutôt du monde de la strat, on n'est pas des créatifs de la marque. Et donc là, en l'occurrence, pour Diplomatique, c'est assez intéressant. On s'est bien passé la main avec une agence qui s'appelle Lord, qui a développé tout le nouvel univers visuel autour de ce narratif, qui lui a donné une puissance et dont on voit maintenant que Diplomatique, ce n'est pas une énième solution d'intelligence artificielle, c'est le leader de la révolution du first time right. Je pense que leur nouvelle marque le dit
traduit bien.
Ouais, le traduit bien.
Si je reviens sur le discours plus CEO, on peut avoir en tête, alors c'est du plus du B2C, mais des exemples comme Michel-Édouard Leclerc qui incarne complètement sa marque, Afflelou, Xavier Niel. Il n'y en a pas beaucoup, forcément des comme ça. Selon toi, quels sont les blocages qui les empêchent de prendre la parole, les CEO d'aujourd'hui?
Il y a un sujet de légitimité.
Ouais.
Est-ce que je suis légitime à prendre la parole sur tout? C'est beaucoup ce blocage-là qu'on entend. Il y a des gens pour qui c'est une mise en risque aussi. En fait, si tu es à l'aise avec l'exercice, tu te dis, OK, en fait, c'est un avantage concurrentiel énorme de savoir prendre la parole. De savoir aller sur BFM avec un autre discours qu'un discours produit, mais un discours sociétal, c'est sûr que c'est un avantage concurrentiel, tu t'exposes, etc. Mais il y en a plein qui se disent, en fait, soit tu l'as ce talent, soit tu l'as pas. Donc, nous, notre conviction, c'est que ça peut un petit peu s'apprendre. Mais à partir du moment où tu sors pas de tes codes et pas de ta personnalité, donc nous, on a aussi beaucoup d'écoute, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver le style personnel de chacun. Mais je pense principalement à un problème de légitimité. Beaucoup de gens qui se disent, au final, moi, j'ai construit une plateforme qui permet de faire la gestion ou de suivi de notes de frais. Qui suis-je ?
Pour
aller parler du futur de la finance, etc. En fait, quand tu es quelqu'un qui agit et qui fait bouger les lignes, qui équipe des entreprises entières avec des milliers d'employés sur une nouvelle solution, bah, tu commences à avoir un rôle et une responsabilité dont tu peux parler, mais avec le bon registre. Voilà, donc c'est ce registre-là qu'on essaye de trouver.
Et tu disais, donc vous êtes deux avec Louis, ton associé, et vous montez tous les deux sur l'émission, vous faites intervenir d'autres gens sur cet exercice du narratif où vraiment, on n'est qu'avec vous deux quand on travaille avec Saul.
Le cœur, c'est nous deux. Voilà, on est un binôme depuis le début. On nous voit tous les deux à chaque réunion. Je pense que c'est notre outil principal. C'est ce ping-pong qu'on se fait entre nous deux. Après, on est très similaires dans notre façon de réfléchir, mais très complémentaires dans notre façon d'interagir avec nos clients. Moi, je vais être plus frontale. Louis va être plus doux. mais c'est notre style. On est
good cop, bad cop.
Un peu ça. Et ça, c'est un rôle.
Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi.
C'est pour ça que ça fonctionne. Ça, c'est notre style parce qu'on a une méthodologie, bien sûr. On se présente un peu comme des empêcheurs de tourner en rond. Si un entrepreneur investit dans le fait de faire un travail avec Saul, c'est parce qu'à un moment, il a envie qu'il y ait un avant et un après. Passer du flou à la clarté. Passer de milliers d'histoires à une histoire forte, d'un positionnement pas différencié à un positionnement super radical, à être noyé dans une catégorie business, à devenir catégorie creator ou catégorie leader. Et donc nous, on se donne 4 semaines. Généralement, ça dure 4 semaines, un accompagnement avec nous, pour que ça avance. Et donc, à la fois, on provoque un peu. On est là pour pas se dire des choses moyennes. On est là pour se dire des choses super sharp. Et donc, on n'hésite pas à être un peu bousculé, beaucoup écouté. Et au moment où il faut, on bouscule. Et aussi, on n'est pas coach, on est conseil et stratège. Donc, on propose des choses. Donc, on met des choses sur la table sur lesquelles les entrepreneurs peuvent réagir. On est assez créatifs aussi, je pense. Et donc, on a des idées qu'on leur propose. Mais l'idée c'est d'avancer. Et donc, on est ce binôme. Et autour de nous, on travaille quand même avec un petit écosystème de partenaires. Pour pas mal de boîtes, au moment où ils travaillent avec nous, il y a un sujet de renaming qui peuvent se poser. On a travaillé par exemple avec une société qui s'appelle Workfor dans le domaine du recrutement volumique, boîte franco-américaine, qui a ressenti le besoin de se rénover, de faire peau neuve, nouveau narratif, nouveau positionnement et nouveau nom. Donc ça s'appelle désormais Seiza, S-E-I-Z-A. Et on travaille avec quelqu'un qui est super bien, super fort, qui s'appelle Yvan Froment, sur le sujet du renaming. On travaille avec des agences sur le sujet du rebranding des plateformes de marque. Donc ça peut être Pello, Studio, Lord, Alastar récemment. On travaille avec des agences PR parce que la communication, c'est à nouveau pas notre métier. Nous, notre objet, c'est plutôt l'histoire centrale qui va ensuite nourrir tous les organes. Pour nourrir tous ces organes, il faut différents types de partenaires. On travaille aussi avec des, sur la partie plutôt sales, avec des agences outbound, etc. Donc, on est bien entouré et ça fait aussi la richesse de notre quotidien.
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ouais, comment t'expliques ça à tes enfants?
Moi, mon fils aîné, qui a 5 ans, le
oui,
plus petit,
je pensais,
il a 2 ans.
Oui, non, je pensais plus à celui qui a 5 ans.
À part, j'ai mis de l'eau partout, il ne sera pas encore en mesure d'expliquer. Mon fils aîné dit que je raconte des histoires.
C'est rigolo, ma fille raconte la même chose.
Voilà. Ça me va très bien. Je trouve que raconter des histoires, dans le bon sens du terme, hein, c'est quelque chose quasiment d'ancestral. C'est quelque chose qui fait du bien. Je suis contente quand il dit ça. Je suis contente aussi d'avoir un métier qui, après, a beaucoup de nuances, beaucoup de spécificités. Moi, j'ai choisi quasiment une niche, hein, les boîtes tech, B2B, mais sur finalement une faculté qui sert partout. Et voilà, c'est comme ça qu'il le raconte.
Ben voilà, un autre point commun. je te propose un petit flashback sur tes débuts. Et pour ça...
Vous avez un message.
Bah, j'aimerais lui poser pourquoi est-ce qu'elle a décidé justement de créer sa propre agence et pourquoi est-ce qu'elle a décidé justement de faire le switch parce qu'avant elle travaillait dans une grosse société de conseil, d'arrêter de bosser dans cette société et justement de créer et de devenir entrepreneur.
C'est donc Sacha Lazimi qui te pose cette question.
Merci Sacha pour ta question. Disons que j'ai pas eu le sentiment de vouloir absolument devenir entrepreneur.
Il y avait des entrepreneurs autour de toi ?
J'ai plutôt des modèles de profession libérale.
D'accord.
Et...
C'est une forme d'entrepreneuriat.
Oui, 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 mais qui me parle beaucoup d'ailleurs. Oui. Et c'est presque plus comme ça que je me décrirais aujourd'hui, tu vois. Plus d'avoir monté ma boîte, plutôt avoir posé ma plaque un petit peu.
Ouais.
De cet ordre-là, chez mon père est médecin... mes meilleures amies sont avocates, ma mère était infirmière indépendante, j'ai des amis artistes. J'aime beaucoup en fait, le sujet de l'autonomie et de l'indépendance. C'est beaucoup ce que j'ai cherché dès le début, même en tant que salariée. Mais donc, le point de départ, ça n'a pas été de me dire « j'en ai marre d'être salariée, je veux être entrepreneur », c'est pas ça. Le point de départ, c'est vraiment une conversation avec Louis en plein confinement et on est au téléphone et on se dit...
Louis, avec qui tu travaillais ?
Avec qui je travaillais avant, donc chez Faber-Novel, et j'en reparlerai. Et avec qui on s'est dit, on adorerait accompagner encore plus les entrepreneurs justement sur cette fonction... De visionnaire pour l'entreprise, de visionnaire pour la société. Et qui les accompagne aujourd'hui ? Est-ce que c'est les agences par la marque ? Oui, un peu, mais pas dans toutes les... dans tous les endroits où, que ça devrait toucher. Est-ce que c'est les agences de communication ? Oui, mais non. Mais dedans, il y a de la strat, etc. Et donc, comme ça, on brainstorm dans une réflexion et quasiment, on dresse Saul en une heure. Voilà. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi on ne testerait pas ? Et puis, on a appelé des amis d'amis, entrepreneurs. Et puis, en 3 mois, on a eu notre premier client qui est Next40, qui s'appelle Worldia, dans le monde du travail. Et puis voilà, on a commencé à tester notre méthode. Et ça nous a donné une énergie folle. Et ça a créé une boîte, ça a créé ce binôme. Ça a commencé à forger notre réputation. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, je n'ai pas pensé devenir entrepreneur. Je le suis devenu. Mais plus par ce moteur, en fait, d'arriver à inventer mon propre métier dans mes propres termes. Et moi, j'aime beaucoup l'idée, en fait, d'inventer un métier, un service en fonction des besoins qu'on identifie chez nos clients. Donc, avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte qui s'appelle Faber-Novel, dont le métier, c'est d'accompagner les grands groupes sur le sujet de leur innovation et de leur transformation digitale. J'y ai passé de mes 23 ans à 33 ans. Donc, c'est une période importante de la vie.
Et c'était rare de rester autant de temps aussi.
Oui, mais moi j'y suis restée autant de temps parce que justement ça a été une expérience incroyable d'apprentissage de l'autonomie au travail. C'est une société qui s'est créée au moment où tout a explosé dans le numérique, où il fallait inventer, décrypter en même temps que les choses se faisaient. Moi quand je suis rentrée chez Faber-Novel, l'iPhone arrivait en France. on crée les premières applis, il y avait l'idée d'un Eldorado. Donc en fait, on crée le métier de Faber-Novel en même temps que le marché se créait. On crée notre compréhension de ce qui se passait dans la tech et le numérique en même temps que ces technologies arrivaient. On crée le marché du conseil sur ces sujets-là en même temps que les choses se faisaient. Enfin, il y avait un côté très en déséquilibre avant tout le temps. Et donc, du coup, c'est un modèle d'entreprise dans lequel chacun, à partir du moment où tu avais un tout petit peu fait tes preuves, tu peux avoir une idée d'un business, d'une BU à monter. On te donnait les clés. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir 1000 vies chez Faber-Novel, de changer de projet, de changer de métier tous les 6 mois, d'avoir le droit de lancer une business unit, d'avoir le droit de lancer une activité aux États-Unis. Et en fait, ça m'a appris, ça m'a donné le goût d'inventer mon métier. Voilà. Et donc, je l'ai fait pendant longtemps chez Faber-Novel, et après, je l'ai fait avec Saul. Mais pour moi, il y a beaucoup une continuité
dans voilà. Tout ça.
Et donc, j'ai pas pensé devenir entrepreneur. Après, j'y prends beaucoup goût. Voilà, quand même. Notamment dans... Moi, j'ai pas de problème à m'exposer dans mon travail. J'aime bien signer ce que je fais de mon nom, en fait. Donc, quand ça merde, ça merde. C'est de ma faute. Quand ça réussit, ça réussit. Et c'est aussi grâce à moi. Donc, j'aime beaucoup cette exposition et devoir assumer à 100% ce que je fais. J'aime aussi la liberté que ça donne sur l'organisation de son travail, le fait de pouvoir aussi s'écouter sur sa meilleure façon de travailler. Par exemple, j'ai découvert que depuis que j'ai des jeunes enfants, le week-end n'est pas tout à fait reposant. Et donc, j'ai besoin à un moment de ne pas être que dans des réunions. Donc, en fait, on a décidé en accord avec mon associé que le lundi était une journée sans réunion. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ça veut dire qu'on prend du temps de lecture, de réflexion profonde, etc. Moi, j'aime travailler la nuit quand tout le monde dort et qu'on n'a plus de notifications Slack, etc. Et donc, je m'autorise à travailler la nuit. Ce qui veut dire que peut-être le matin, je suis un petit peu moins disponible. Mais c'est une liberté incroyable et qui me permet d'être meilleure, en fait, dans ce que je fais. À
ton
mon rythme.
D'ailleurs, c'est ça que je veux
dire. Oui, oui, je crois qu'on appelle ça comme ça. Exactement.
Ouais. Justement, est-ce que toi, parce qu'on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, là je vois le que vous ne pouvez pas voir en podcast, c'était marrant. Comment toi tu travailles ton narratif et ton personal branding?
Ouais, personal branding, pas beaucoup. On a plutôt. D'ailleurs, je tiens à remercier Sacha de m'avoir fait ce shout-out ici, parce que en fait, c'est rare pour les entrepreneurs de dire qu'ils sont accompagnés, qu'il y a des conseillers de l'ombre dans n'importe quel écosystème, dans n'importe quel marché. Il y a
dans nos métiers,
ceux qu'on voit et il y a les conseils. Voilà. Moi, je suis assez à l'aise avec cette idée d'être un peu dans l'ombre, l'imminence grise, un peu Daft Punk, quoi.
Merci de ne pas venir avec ton casque.
Voilà, je fais des super sons, mais c'est pas la peine, des super narratifs, mais c'est pas nécessairement la peine de voir ma tête. Peu d'exposition publique. Ce que je travaille beaucoup, et avec nous, on est assez sensible à ça, c'est notre réputation. Donc, très bien servir nos clients. De toute façon, sur notre marché, ce qui se passe, c'est que notre développement est forcément soumis au bouche à oreille. Donc, nos clients nous arrivent parce que dans un déjeuner de CEO à CEO, ils se sont parlé de comment tu avais travaillé ton truc, ton positionnement, ta vision. J'ai vu que tu avais écrit ça sur un post LinkedIn, ça devient d'où? Tu devrais leur parler. C'est comme ça. Et donc, on travaille énormément la qualité de notre travail, la qualité de chacun des workshops, chacun des livrables. Voilà, on va avoir une excellente réputation, mais plutôt dans l'ombre et dans le bouche à oreille. Au début, j'ai quand même beaucoup affiné mon pitch. Et finalement, je pitche plus beaucoup à des gens qui, a priori, sont pas intéressés. Le sujet du narratif est assez particulier, c'est-à-dire qu'en fait, il y a personne qui se dit qu'il a besoin d'un narratif.
Non, tu te lèves pas le matin en te disant...
Et moi, ça sert à rien que j'aille pitcher des gens qui ont pas entendu parler de moi. Tu te lèves pas le matin, effectivement, en te disant « Tiens, j'ai vraiment un problème de narratif stratégique. » Après, il y a plusieurs symptômes qui, selon moi, montrent que t'en as besoin. C'est ton équipe qui vient tout le temps te demander « Mais c'est quoi la vision ?» Ou c'est...
J'écris quoi dans le mail ?
Voilà, exactement. C'est quoi en une phrase, comment on écrit en une phrase notre boîte. Ça peut être on a du mal à recruter, ça peut être bien sûr des sujets de vente, perte de performance commerciale parce qu'en fait on a un concurrent qui vient de reprendre nos éléments de langage, où on s'aperçoit qu'au début on était un petit peu seul sur notre marché, mais que là ça devient de plus en plus concurrentiel, comment on sort de la mêlée. ça peut être plein de sujets différents. Et donc, le narratif, c'est notre méthode pour arriver à résoudre ces points de blocage business. Et donc, mon narratif, c'est surtout mon pitch commercial que je fais maintenant à des gens qui ont déjà, a priori, compris un petit peu ce qu'on faisait quand ils nous appellent.
Pour toi, j'ai une autre question surprise.
Vous avez un message.
Coucou Caroline, c'est Fleur. Je sais que tu es en train d'enregistrer un podcast avec Solène. Et comme vous êtes toutes les deux beaucoup trop cool, j'ai vraiment super hâte de vous entendre. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, et je pense qu'elle pourrait aider pas mal de gens, parce que moi, ça m'a beaucoup aidée quand je me suis lancée, c'est est-ce que tu pourrais nous partager tes conseils pour celles et ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup, à très vite.
Ça fait très plaisir d'entendre la voix de Fleur.
Fleur Doué, avec qui tu as travaillé chez Faber.
Oui, absolument.
Notamment.
Ouais.
Et qui voulait te faire cette petite surprise.
Écoute, c'est une belle surprise. Est-ce que j'ai des conseils à donner sur l'entrepreneuriat? Je ne sais pas. Je n'ai pas le sentiment de ça, mais je peux dire moi ce qui m'a un peu... ce que sont mes marottes, en fait, dans l'entrepreneuriat ou l'indépendance. Il y a le sujet... Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, sujet de la réputation, sujet de la relation client. C'est marrant parce que je me suis dit qu'il faudrait que j'écrive un mini post LinkedIn là-dessus, mais je suis un peu hallucinée sur LinkedIn de voir beaucoup d'entrepreneurs, notamment solopreneurs, etc., beaucoup communiquer sur la méthode pour tout défoncer, c'est...
T'en penses quoi?
Déjà, défoncer ou être un killer, etc., je n'aime pas beaucoup ce vocabulaire. Mais qui disent tout le temps des trucs sur leurs chiffres, le chiffre d'affaires, la méthode de vente, etc., et qui parlent rarement de satisfaction et de relations clients, en fait. Je trouve que le premier truc, ton premier asset, première chose que tu construis, c'est la relation client. Donc... se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est être absolument obsédé, je pense, par ses clients, et au début pas tellement compter son investissement temps tant qu'un client est content. Et ça, c'est un levier important. Un conseil ici que je donne souvent, c'est le sujet du pricing. Je vois beaucoup de personnes autour de moi se lancer notamment dans l'indépendance et se dire que tout seul ils sont tout petits et donc ils valent pas grand chose. Et souvent proposer des prix un peu minables, j'allais dire, mais qui sont sous-valorisés par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à un client. Déjà, moi, je renverse toujours la conversation du prix. C'est jamais combien je coûte, c'est combien pour un investisseur, pour un entrepreneur, c'est un investissement de combien. Combien ils sont prêts à investir et combien ils doivent investir dans le fait d'avoir un positionnement qui est clair. Je trouve ça hyper important d'avoir un pricing un peu... haut, mais qui dit en fait la valeur que tu apportes à tes clients. En France, tu dois le savoir, c'est difficile de faire payer des gens pour des idées.
Oui.
Encore. Oui. Hein? Donc, ils achètent des outils, faire payer pour des idées, alors qu'on voit la force des idées. C'est difficile de créer ce marché. Et moi, je me suis donné un peu comme marotte personnelle, comme combat, d'installer un bon niveau de pricing sur ces métiers-là. Donc, on avance doucement. Mais je trouve ça important de se dire dès le début, là, il faut set de tone, quoi. Donc, faut donner ton prix. Si tu fais du travail de qualité et que tes clients sont contents sur des sujets business qui leur apportent énormément de valeur, ça a un coût. Et donc, c'est difficile quand on a un sujet de légitimité, quand on se sent un peu tout seul, quand on se sent au début, on dit oh, je vais gagner mes premiers clients, je fais pas des gros prix. Si, il faut le faire tout de suite parce que c'est très difficile de remonter la pente.
C'est un positionnement aussi.
Et c'est un positionnement, absolument. Donc se montrer premium, rare, précieux. Voilà, donc c'est un sujet où dans les déj, des cafés, etc., souvent je m'aperçois que je coache les gens là-dessus naturellement.
Ouais.
Je pense que c'est un des conseils que j'avais donné à Fleur aussi.
Je propose qu'on poursuive cette émission avec une catégorie qui fait toujours danser dans le studio.
Ah, très bien.
Ta première big mistake.
Déjà, j'adore Jeanne Masse, là.
Tu veux qu'on la remette un coup?
Moi, ma chanson, c'est En rouge et noir. Et
ah oui.
L'histoire, c'est que ma mère m'a bercée toute petite
sur cette chanson
qui était le hit de l'année 86. ma première big mistake, C'est de croire que tout le monde était naturel au travail.
Tu peux développer.
Ouais, je vais développer. En fait, pour moi, c'est évident que... Enfin, je ne fais pas tellement de différence entre le monde du travail et le monde perso. Moi, je suis complètement entière et parfaitement naturelle. Je suis la même. Et... J'ai toujours pensé que les gens étaient tous comme ça. et en fait, je me suis aperçue... mais ça, mes clients, notamment plutôt dans des contextes grands groupes, etc., m'ont fait comprendre que c'était pas le cas. Et donc, j'ai dû réorienter parfois des recos, des projets pour les adapter, en fait, à des gens qui avaient des politiques, qui étaient des politiciens au sein de l'entreprise. J'ai fait des erreurs à cause de ça, à cause d'une sorte de naïveté sur ce sujet-là. Voilà, donc déjà, première erreur, c'est de croire que tout le monde est fait comme toi. C'est pas vrai, les gens ont des motivations intrinsèques qui sont bien différentes, mais ça, tu l'apprends. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des masques. Et donc maintenant, j'essaie de déceler.
Et comment tu navigues justement dans ces univers où il y a... C'est très politique, ou comment tu as pu naviguer?
Ouais, assez mal hein, d'ailleurs, parce que je pense que moi je suis quand même plus...
C'est pas dans ta matrice.
Ouais, ça me demande un effort dans lequel je suis pas à l'aise et j'ai du mal à m'épanouir. Je trouve ça menaçant, j'aime pas du tout ça et j'ai pas trouvé les tactiques pour bien le faire. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler en direct avec des entrepreneurs. Parce qu'en fait, la figure de l'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un pour qui la création d'une boîte est un projet en fait très personnel. Mmh. Et les motivations sont très personnelles. Et nos projets démarrent toujours avec une session qui s'appelle Founder Meeting, où on fait parler les entrepreneurs, les cofondateurs, cofondatrices, sur le sujet de leur ambition, leur intime conviction, leur idéologie personnelle, etc. Et on revient toujours à des sujets de l'enfance, de la famille. Donc je ne suis pas psy, hein, mais j'entends des trucs parfois qui sont très personnels, voire de l'ordre de l'intime. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, souvent quand même, les entrepreneurs et entrepreneuses sont des gens qui sont très investis d'une mission personnelle. Et donc se confondent en eux la personne et le professionnel. Mmh. Et donc là, je retrouve ce que moi j'aime.
Oui, il n'y a pas cette politique, parce que tu ne fais pas de la politique avec toi-même,
voilà.
Généralement.
Et donc, en te parlant, je réalise que c'est peut-être aussi un sous-jacent de pourquoi je suis passée du conseil aux grands groupes au conseil aux entrepreneurs.
Ouais. En t'écoutant aussi, je me disais, tiens, c'est limpide.
Voilà, bah écoute, merci pour cette question, je ressors.
Parce qu'on a aussi l'habitude de faire parler, tu sais, les entrepreneurs, tu vois.
Absolument.
Ton premier renoncement.
Renoncement.
Il n'y en a peut-être pas eu. Hein.
Certainement que si. Non, j'ai pas l'impression. D'un coup, tu m'as dit renoncement. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai dû renoncer en devenant maman? Tu vois, par exemple, ouais. En me disant, t'as moins le temps de faire tout, tu peux moins t'investir partout, etc. Et non, parce que finalement. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait cette association d'idées, mais je me suis dit, je prends plutôt le contre-pied. J'ai l'impression que ça m'a plutôt donné une énergie à mieux faire les choses, à mieux m'organiser, etc. Écoute, je...
Il n'y en a pas. Eh ben, c'est pas...
Ça ne me vient pas.
Pas de problème. Premier apprentissage.
Premier apprentissage. Écoute, je reviens à Faber-Novel, c'est ça qui me vient. Faber-Novel, ouais. C'était une sorte d'école d'improvisation, mais aussi de professionnalisation. J'ai beaucoup, beaucoup appris là-bas. Et c'est un conseil, d'ailleurs, pour... quand on commence sa carrière, de trouver le bon endroit dans lequel on va pouvoir apprendre, tester, être dans une culture qui permet d'apprendre. Je trouve que la phase de la vingtaine, c'est une étape très, très importante parce qu'on commence à gagner en autonomie de pensée, on commence à se forger un style et il faut être dans le bon environnement pour faire ça. J'ai fait beaucoup de mes premiers apprentissages parce qu'on m'a permis de les faire en étant très exposée. Fondateur de Faber-Novel, c'est quelqu'un qui s'appelle Stéphane Distinguin qui a cette culture-là, qui te dit en fait, notamment sur le sujet du numérique, on peut être jeune et avoir raison. Et c'est vrai qu'à 23 ans, j'étais devant le DG de L'Oréal à pitcher mes idées. Il n'y a rien de mieux quoi, qu'un apprentissage sur le terrain plutôt que par la pratique ou la théorie. Et donc, apprentissage, je pense, Faber-Novel.
Premier ego trip.
Ah, c'est une bonne question. Ah, un truc que j'ai que j'ai affiché, j'ai encore la capture d'écran, un truc qui m'a rendu méga fière. Mais après, c'est dans notre petit milieu, dans le petit jargon. Mais on a réalisé avec Louis, et c'est quand même les prémices de Soul, une étude, tant qu'on était chez Faber-Novel, une étude sur le modèle de LinkedIn. Donc en fait, chez Faber-Novel, pour faire notre propre marketing, on réalisait tous les ans une étude sur les grands modèles business de la tech. Donc on a fait une étude sur Amazon, une étude sur le modèle de Facebook, une étude sur le modèle de Google, et était venue l'année de modèle de LinkedIn. Donc comment cette plateforme grandit, comment elle change l'économie à différents égards, etc. Et en fait, cette étude a été publique, librement téléchargeable, beaucoup reprise dans les médias, etc. Et puis, je reçois sur mon LinkedIn un message du CEO LinkedIn qui me dit « Coucou les gars, je ne sais pas d'où vous venez. » Je ne connaissais pas nécessairement Faber-Novel. Ouais. Ce qui était une erreur, parce qu'à ce moment-là, Faber-Novel avait quand même des bureaux à San Francisco, dans les bons blocs, à côté de Twitter, etc. Et on était un petit peu présents dans son écosystème, mais il ne nous connaissait pas directement. Il nous dit « Mais bravo les gars, dans votre étude, vous avez réussi à raconter la vision de LinkedIn plus que je n'arrive à le faire moi-même. » Pas mal, non ? Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et donc, c'était un moment où on avait pris tous les ingrédients LinkedIn et on s'était dit, mais s'ils poussent le bouchon un peu plus loin, c'est-à-dire référencer pas mal de CV, notamment du monde à col blanc, savoir les trajectoires personnelles des gens, leur carrière, etc., ils vont commencer à mapper, on va avoir toute la donnée nécessaire pour pouvoir mapper ce qu'on appelle la skill-based economy, quoi, l'économie basée sur les compétences. Et on avait nommé ça comme ça. Et c'est ça qu'il a appelé sa vision. Et donc, ils nous ont racheté, en fait, l'étude pour en faire une utilisation exclusive et qui est devenue la base de leur deck commercial au moment où LinkedIn accélérait sur leur démarchage commercial auprès des enterprises. Donc, ils commençaient à avoir toutes les solutions enterprise. Et donc ça, bon ego trip.
Ah voilà. Oui, bon ego trip, bravo.
Et tu vois, et ça, c'était il y a quasiment 10 ans. Donc, c'était le moment où on s'est dit avec Louis, on arrive pas mal à raconter des histoires d'autres boîtes.
Il y a peut-être un truc à faire.
Il y a peut-être un truc à faire.
Et elle a une petite dernière fois haute, première nuit blanche.
Moi, j'ai toujours fait des nuits blanches.
Ce que tu disais tout à l'heure.
Je dors très peu, depuis toujours. J'ai l'impression que dormir, c'est... Alors, je suis pas quelqu'un qui est sur la performance et tout, hein, du tout, mais moi, j'ai l'impression que dormir, c'est... J'ai l'impression de faire des trucs en moins ou de perdre du temps, donc je dors assez peu. J'ai toujours travaillé la nuit, j'ai fait mes dissertes la nuit, Bon, voilà. Et donc, nuit blanche, c'est le travail. Souvent.
On dit souvent que chaque fois qu'une entreprise réussit, c'est parce qu'il y a des décisions courageuses qui ont été prises. Ça peut s'appliquer aussi d'un point de vue perso. Ce serait quoi, toi, ta décision courageuse ?
Ma décision courageuse ? Écoute, non, j'ai pas eu l'impression... Je ne suis pas une figure de courage, tu vois ?
C'est-à-dire ?
Mais non, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Donc,
On dit qu'on la provoque, la chance.
On dit qu'on la provoque ou que tu vois que tes parents te provoquent la chance. Moi, mes parents m'ont mis dans des super conditions pour que je fasse des bonnes études. Et à un moment où au bon moment, ils m'ont laissé le choix de tout. De mes études, ils n'ont jamais émis d'avis bloquant, etc. Et donc, en fait, tous mes choix professionnels ont beaucoup été drivés par l'instinct. Et par la rencontre avec des gens. J'ai pas fait ce sur quoi j'étais forcément attendue ou ce qui faisait le mieux sur le papier. Et finalement, c'était à la fin des bons choix. Mais tu vois, je me suis pas dit je prends des risques. Ça fait pas partie de mon système de valeurs de m'évaluer sur mon niveau de courage ou pas. Mmh. Voilà. Donc, mais je pense que c'est beaucoup de chance.
Très bien. Alors, on va garder ça. Pour la prochaine.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
C'est la partie psy, justement.
Ah, ça n'avait pas déjà commencé.
Si, ça a déjà commencé. J'adore poser cette question de à quoi tu rêvais petite ou à quoi tu jouais petite.
Je jouais peu. Ouais, je m'isolais peu et les quelques souvenirs que j'ai de mon enfance, j'ai l'impression que j'écoutais les conversations des grands.
Ouais.
Voilà, voilà, c'était ça ma fascination. C'était mes parents qui recevaient à dîner et de me cacher comme une petite souris pour écouter ce que racontaient les grands. Voilà, et d'écouter des conversations.
Parce que c'est les histoires déjà qui te fascinaient ?
Les histoires, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même... j'ai des souvenirs de livres d'enfance, j'ai des souvenirs des films. Ouais, beaucoup les histoires, mais pas forcément, tu vois, les imaginaires complexes, la science-fiction, etc. Presque plus des destins personnels, tu vois. Princesse Sarah, j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai lu beaucoup des biographies. Adolescente, je rêvais d'un truc, je rêvais d'être à la programmation de TF1. Voilà, je voulais bosser dans la télé, tu vois.
On a beaucoup de points communs.
Tu vois, et je me suis dit de pouvoir choisir, les bonnes histoires à mettre dans la télé, vu la force de diffusion à l'époque, ouais. de la télé, c'est génial comme métier, c'est génial comme position à avoir, quoi, de pouvoir faire des choix comme ça. Bon, voilà. j'ai finalement bossé chez TF1. J'ai fait un stage chez TF1 à la direction du numérique et de l'innovation. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas que des histoires, que des jolies histoires à raconter à la télé. Mais ouais, c'est un truc qui m'avait fait rêver pendant un moment.
De travailler à la télé. Mm. T'as des frères et sœurs ?
J'ai un frère.
Et donc, petit, vous n'étiez pas dans des jeux particuliers
Non, on chamaillait, quoi, comme des frères et sœurs. On est très proches en âge, on a beaucoup grandi un peu comme des jumeaux, comme des enfants normaux de leur époque. Je pense qu'on a regardé beaucoup la télé.
Ouais.
Voilà.
Ce que tu ne fais pas avec tes enfants ?
Ce que je ne fais pas avec mes enfants, je leur interdis pas du tout les écrans, ouais. Mais ils n'ont pas, jamais ils prendront la tablette, d'ailleurs on n'a pas de tablette, mais tout seul ou le téléphone tout seul. En revanche, moi ce que j'aime bien là, mon fils il a 5 ans, quasiment 6 ans, c'est qu'il peut commencer à regarder des films. Et d'ailleurs moi je ne laisse pas regarder des séries, épisodes type Pas de Patrouille, Ninjago, etc., des trucs que tu bouffes en série, là. Ouais. Je lui dis, toi, tu regardes des histoires. Et il me dit, ah, c'est quoi des histoires ? C'est quoi des films ? Il y a un début et il y a une fin. C'est construit et il y a... comment je vais essayer de lui expliquer la morale ? Mais il y a une... On essaie de te faire passer...
Un message.
Voilà. Donc, il a compris. Il me dit, OK, là, on regarde un truc parce qu'il y a un début et une fin. Sinon, je trouve que c'est juste du remplissage. Mm. Et tu vois, là il a regardé Maman j'ai raté l'avion, il s'est éclaté. Ça je trouve ça génial, et ça me rappelle des souvenirs d'enfance avec mon frère où on avait nos marottes sur des histoires géniales. On a beaucoup regardé Diabolomante, voilà. Donc ouais, enfance et mon frère, je me souviens avoir déliré autour de trucs de télé, quoi.
Il y a des gens qui ont... Alors, tu en as parlé un peu tout à l'heure chez Fabien Novel. Tu disais que tu avais eu la chance d'être peut-être au bon endroit, au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes. Mmh. Il y a des personnes qui t'ont marqué plus que d'autres et qui ont fait que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui.
Moi, j'ai eu un coup de cœur professionnel pour une boîte pour laquelle j'ai travaillé. C'est le groupe Maïf, ça m'a beaucoup marqué. Donc, l'assurance, c'est pas sexy. Tu dis, qu'est-ce qu'elle me raconte ? La Maïf, c'est une mutuelle et c'est une boîte qui, en fait, fondamentalement, est axée bien commun. Voilà. Donc, ils font un truc qui est pas méga sexy, assurance habitation, assurance véhicule, plutôt spécialisée dans l'éducation nationale. Donc, ils assurent les profs, principalement, même si c'est ouvert à d'autres types de profils. J'ai adoré bosser pour eux parce qu'ils sont animés d'une mission sociétale qui dit qu'en fait, l'assurance, c'est un facteur d'émancipation des hommes et des femmes. Que si tu n'es pas dans une société qui est capable de s'assurer, tu ne peux pas avancer dans la vie. Et je pense qu'avec eux, et notamment par la personnalité du dirigeant qui s'appelle Pascal Demurger, qui a écrit un bouquin d'ailleurs, un petit plaidoyer hyper intéressant, qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas ». J'ai compris en fait, je crois, la force de la vision. Au sein d'une boîte et comment elle t'aide à t'aiguiller et à être une boussole morale et stratégique pour faire les bons choix, pour recruter les bonnes personnes. Et voilà, c'est une boîte qui reste encore un modèle, je suis beaucoup ce qu'ils font. Donc ça m'a beaucoup marquée, influencée. Voilà, et donc mon précédent patron, Stéphane Distinguin, je veux le nommer quand même, est une influence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur très talentueux qui a une énergie folle et qui est très instinctif. Et je pense, il sent les choses beaucoup. Tout n'est pas très clairement exprimé dans sa façon de manager, mais il est très très instinctif, il a beaucoup d'idées. Et je pense que ce qui m'a appris, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de suivre son intuition, même en business. Voilà, et donc ça je lui dois.
Eh bien, dédicace à Stéphane alors. On en a parlé rapidement, t'as deux enfants aujourd'hui, tu sais, ça m'a appris à être encore plus efficace, m'organiser encore mieux. Ça a changé d'autres choses de devenir maman.
Oh, de la patience.
Ouais.
De savoir parfois naviguer dans un peu de chaos. Ça m'a appris que t'étais pas toujours en contrôle de tout. Voilà.
Le lâcher prise.
Le lâcher prise. Tu peux pas tout décider de tout, minute par minute, de vêtement par vêtement, de couleur de chaussette par couleur de chaussette. Ça m'a appris à me laisser surprendre par leur personnalité, hein, dès tout petit. Et j'adore les observer, j'adore les écouter. Et je crois que je suis devenue plus fine psychologue. Enfin, je suis pas psy, mais j'écoute mieux les gens depuis que j'ai des enfants. Voilà, je comprends mieux les différentes... Je suis plus sensible, plus connectée à la nature humaine. Mmh. Voilà.
Et ça, tu l'expliques comment ?
Bah, par la nécessité, hein, parce que t'as de petits news devant toi là, qui ont leur propre système de pensée, qui se font submerger par leurs émotions, qui ne savent pas comment les gérer, etc. Et je vois bien dans cette matière à l'état brut qu'est un enfant de moins de 6 ans, comment ça, en fait, tu l'as encore un peu en tant qu'adulte. Et c'est pour ça que je te dis, avec les entrepreneurs avec qui je travaille, souvent on reparle des sujets de l'enfance. D'où viennent leurs valeurs, d'où viennent leurs convictions. Et c'est la raison pour laquelle tu me poses aussi ces questions. Donc, tu vois, boucler.
Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre ? Et qu'est-ce que tu as envie dans, disons, 6 ans ? Allez, dans 30 ans, on va dire, pour faire très large. Dans 30 ans, imagine, un de tes fils est CEO d'une boîte. Il choisira bien ce qu'il veut faire. Et oui. Il a un narratif, il y a quelqu'un qui l'aide à faire son narratif. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il raconte ?
Qu'est-ce que j'aimerais qu'il raconte ? Moi, j'aimerais qu'il ait la liberté de penser ce qu'il veut, en fait. Donc, moi, je ne suis pas là. Je ne considère pas que mon rôle de parent est de transmettre une idée, mais de façonner une autonomie de pensée. Voilà, de les laisser... s'autoriser à penser dans leurs propres termes. Ça, ça me paraît très, très important. C'est un facteur de liberté et d'émancipation, à nouveau, de savoir formuler des idées et donc de s'autoriser à les penser, de se dire que c'est pas grave si on n'a pas les mêmes idées que les autres. Et en fait, c'est quand même le point commun que j'observe chez tous les entrepreneurs. Que je côtoie, avec qui je travaille, je vis avec un entrepreneur. C'est quand même des gens qui ont appris très tôt, à chaque fois, à s'autoriser à faire les choses à leur propre façon. Et donc, je pense que ça s'apprend dès l'enfance. Et notamment, bah, c'est un sujet aussi peut-être d'inégalité de genre, parce que avant d'être... Enfin, les entrepreneurs sont principalement des hommes. Et avant d'être des hommes, ça a été des petits garçons à qui on a certainement dit dans leur mode d'éducation, c'est bien de t'exprimer, c'est bien de faire du bruit. Ah, dis donc, il a un sacré tempérament. Ah, il a une chouette personnalité, il s'exprime, c'est cool. Et donc, ça forge une sorte de confiance profonde dans le fait de se dire, ah, mais j'ai le droit d'avoir cette idée, je me sens légitime.
Je peux le faire.
C'est valable. C'est valable de croire que, en fait, si j'ai une idée sur le secteur du BTP, je vais le faire. J'entends dans les entrepreneurs hommes, chez tous les entrepreneurs, pardon, ça, ce truc-là qui est de dire, en fait, j'ai pensé ça, et puis je me suis dit que j'allais le faire, voilà. Et, mais c'est principalement des hommes. Mmh. Et en fait, je pense que les petites filles, je le vois encore, mais on leur a beaucoup dit, attends, réfléchis bien avant de parler, et parle pas trop fort, ne dérange pas, donc en fait, l'apprentissage de la docilité. Et ça te crée des blocages plus tard. T'oses pas t'exprimer, tu te dis que ton idée, bah, tu l'as, mais qu'elle est peut-être pas valable, tu veux double-checker si quelqu'un dit ça avant toi pour être sûr de pas être une folle. Et donc le moment où t'as une idée peut-être de boîte à créer, tu te dis, oh, bah, si personne ne l'a fait, c'est peut-être qu'en fait c'est une mauvaise idée. Donc c'est pas le même mode de pensée. Voilà. Il y a le sujet du genre là-dedans, il y a le sujet de l'éducation au sens général, c'est-à-dire avoir des modèles d'éducation où même en famille, à table, bah, on invite les enfants à parler plutôt qu'à se taire. Voilà, il y a des cultures dans lesquelles les enfants ne s'expriment pas à table. Bah, c'est dommage. Moi, je pense qu'un enfant doit apprendre très vite, à, même si c'est une bonne, une mauvaise idée, un peu con-con ou pas, on s'en fiche, exprimer son idée. À l'école, en France, on apprend plutôt à suivre les règles, à se taire quand on n'a pas levé la main, plutôt qu'à s'exprimer. Dans les écoles anglo-saxonnes, bonne ou mauvaise idée, si tu t'exprimes, tu as des bons points. Ça, c'est important, je pense. Ça crée une confiance dès le plus jeune âge. Et donc, moi, je souhaite pas que mes enfants s'expriment plus ou moins sur des sujets particuliers. Je souhaite juste qu'ils s'expriment. Voilà.
Et t'as choisi l'école plutôt type anglo-saxon ou l'école type classique française pour tes enfants ?
Française aussi, parce que vous trouvez le bon équilibre entre avoir les codes et...
Oui.
Voilà. Et c'est plutôt dans l'extrascolaire que je cherche à ce qu'ils expriment ça. Alors, il y a plein de façons de faire, mais je pense qu'il y a la liberté d'expression par les mots. Donc, c'est encore un peu petit, mais moi, je pense très fortement au théâtre. Il y a la liberté du corps. Donc, première activité périscolaire, c'est la danse. Voilà. Donc, je pense que c'est très important. Le chant aussi. Et moi, ça, c'est un truc contre... Je me bats aussi encore contre ce truc-là. Hein. Moi, j'ai eu mes propres blocages sur le fait de m'exprimer, d'avoir mes propres idées, etc. D'où le fait aussi d'être plutôt conseiller de l'ombre. J'ai plein de super idées, des idées assez fortes, des idées radicales. Je les prête plutôt aux autres. Voilà, c'est pas moi qui les porte de façon frontale. J'aime chanter, mais je chante pas toute seule. Je fais du gospel, donc je suis dans un chœur et je ne fais pas de solo. Donc c'est encore un apprentissage que j'essaye de faire, de se dire oser se lancer, s'assumer seul et en son nom et avoir une autonomie de pensée et d'expression. Mais ça, je pense que c'est un rôle de parent qui est assez important. J'y mets beaucoup d'attention.
Mais en tout cas, t'as un micro. Là, si tu veux, je sors et tu peux chanter à la fin de ce podcast.
Tu as compris, je ne suis pas encore prête à le faire toute seule. Ou des occasions très particulières. Il y a une amie qui récemment m'a demandé de chanter à son mariage. Je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. Elle était très contente. Ça m'a bien stressée pendant tout l'été.
Où tu vas chercher ton inspiration ?
Je lis beaucoup. Pas forcément des bouquins business, parce que ça me déprime plutôt, mais je...
Bah c'est fait, ça aide à s'endormir.
Ça aide à s'endormir, exactement. Ou généralement, quand t'as lu l'intro, bah, ça suffit, enfin, c'est pas la peine de poursuivre. Mais je lis beaucoup des histoires, la façon de formuler des idées. J'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup... en fait, ce qui m'inspire presque le plus, et notamment dans mon métier, ce qui est important, c'est de bien comprendre l'insight. C'est-à-dire qu'une boîte est une boîte, mais elle parle toujours à quelqu'un, que ce soit un particulier, un acheteur, mais toujours un humain. Donc c'est pour moi très important qu'une boîte sache parler à des vrais gens. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est en fait l'insight, la vie des vrais gens. Donc ça peut être... écouter tu vois, les infos, regarder les émissions d'M6. Moi, M6, c'est encore une histoire de télé, mais pour moi, M6, c'est la chaîne de l'insight. C'est-à-dire que c'est une boîte qui comprend toujours l'air du temps. Donc, toutes les nouvelles émissions sur l'immobilier, contre le body shaming, l'amour est dans le prêt. C'est que tous les sujets de zone interdite sont des expressions d'insight, c'est-à-dire genre quelque chose qui préoccupe, qui traverse la vie des gens, de la population au sens large, des vrais gens. Et donc, je trouve que c'est toujours intéressant de se nourrir de ça, la culture populaire aussi, pour arriver à refaire descendre des sujets épineux ou un peu complexes, qui peuvent être l'intelligence artificielle, la data, les sujets des boîtes pour lesquelles je travaille, à un niveau, en fait, exprimé pour les vrais gens. Donc, c'est beaucoup ça qui m'inspire et qui est ma matière, finalement, de travail, de départ.
De travail, de réflexion. Ouais. Allez. Si tu étais présidente de la République, Première ministre, ça a été pris il y a 2 jours. Là,
mince.
Donc,
mince.
J'attendais. 2 jours de retard.
J'attendais un appel.
Ah, les secrétaires d'État ne sont pas sortis encore. Alors, c'est vrai, c'est vrai. On se parle, pardon. En tout cas, si tu devenais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi?
Alors, sans surprise, tu comprends maintenant que je suis très attachée à l'objet vision et que je trouve que c'est très important d'avoir une vision. Je créerais, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, est-ce que ce serait un ministère, une convention, un format qui travaillerait en fait la raison d'être de la France, la raison d'être français, quoi. C'est pas un sujet d'identité nationale du tout, mais c'est un sujet de quel est l'imaginaire, quel est le projet commun qu'on se formule ensemble, tous citoyens, de ce qu'on veut devenir ensemble. Voilà. Dans quel bateau on s'embarque, quel est notre rôle à tous, je sais pas quelle place on veut avoir dans le monde, si on veut en avoir une, quelle voix on porte, quelles valeurs on porte, quel type de solidarité on veut avoir les uns avec les autres, etc. Et je trouve que ça, en fait, ça, pour moi, c'est ça la politique, et je le trouve pas aujourd'hui exprimé ni dans les partis, ni dans la façon du gouvernement d'annoncer. Des nouvelles lois, on a l'impression que ça sort du chapeau, et tiens, on va faire ça, et tiens, on va faire ça. Et donc, du coup, les réactions face à chacun des projets...
C'est des levées de boucliers.
C'est soit des levées de boucliers, mais c'est parce qu'en fait, on ne comprend pas, au fond, le système de pensée. Et moi, j'ai fondamentalement besoin d'en raccrocher ça à une vision plus large. Donc, il y a quelques acteurs politiques qui en ont une, qui en parlent, mais pas tous, et je trouve qu'on manque d'un fil rouge.
Et c'est des choses qui sont... un petit peu travaillé, mais encore au moment des élections, mais qui se perdent vite.
Exactement. Et je trouve que comme dans une entreprise, justifier n'importe quelle décision, même une micro-décision, au prisme d'une vision plus large, t'aide à mieux la digérer, mieux la comprendre et voir son rôle par rapport à un projet. La retraite, l'immigration, plein de sujets, t'auras envie de les entendre, oui, mais parce que, ou non parce que, et la vision plus lointaine, on ne l'a pas du tout. Donc en fait, on a des émissions politiques qui sont des égaux contre égaux, des destins politiques contre des destins politiques, des réactions épidermiques, et pas de long terme. Et voilà. Et donc, je pense pas que ça doit. S'il y a un ministère, ça devrait être un ministère qui traverse tous les gouvernements, c'est-à-dire qui sont pas trop teintés d'un esprit politique, mais qui pourrait même. En fait, tu pourrais te dire que si la vision est suffisamment écrite et mise à jour et suffisamment démocratique, elle est suffisamment forte pour qu'en fait la politique se désaxe et se fasse à un niveau très local. Moi, il y a un niveau politique qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de la ville. Où je trouve qu'il y a un vrai sens du politique dans l'organisation du vivre ensemble. Parfois, quelles que soient les vues politiques, c'est juste l'organisation de la vie des gens dans la vraie vie. Et que, en fait, si au niveau des villes, tu pouvais prendre des décisions intelligentes, sachant que la plus grande histoire qu'on vit tous ensemble, le destin commun qu'on se choisit, il est clair, ça pourrait s'organiser comme ça, dans un monde idéal. Voilà, dans mon monde idéal. Et il y a un bouquin qui est assez intéressant sur le sujet, qui s'appelle « Le roman national des marques », qui a été écrit par quelqu'un, je ne suis pas super bonne en nom, mais je crois que c'est Raphaël Lorca, et qui dit que, en fait, le sujet du roman national, l'histoire qu'on se raconte tous ensemble de ce qu'on va devenir, a été complètement déserté par la politique, donc ça je suis d'accord avec lui, et il constate qu'en fait ce sont les marques qui ont investi ce sujet. Donc on a vu des Adidas, des Nike faire des campagnes sur ce que c'est être français, Cocorico, notamment aux occasions des grands événements sportifs, et finalement c'est quasiment les marques qui racontent aujourd'hui plus ce que c'est d'être français, qui mettent des visages, qui mettent des mots, que nos responsables politiques. Donc... voilà, situation à résoudre, selon moi.
Bon, le message est passé. Wow. Allez, pour finir cette émission, je te propose la claque. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a donné une claque dans ta vie d'entrepreneur ou avant?
Alors, une claque, c'est pas quelque chose qui m'a renversé, mais qui m'a donné... ça m'a fait penser à quelque chose qui m'avait donné à penser, en fait. Il y a eu un moment marquant dans pense, dans mon adolescence, qui s'est passé à l'école. C'est un jour, mais je pense en sixième ou en cinquième, ou peut-être plus tôt, je ne sais pas. La prof de maths qui commence à te dire « Les cocos, vous avez appris à compter de 0 à 1 million. » Et en fait, je vous apprends qu'il y a un autre monde qui est celui des chiffres négatifs. Donc en fait, bon, toute ton enfance, tu commences tes maths en disant bon, « il y a les chiffres positifs, plus. » Et puis à un moment, tu dis « Ah putain, il y a un autre monde en dessous qui est le monde négatif. » Alors c'était une réflexion complètement naïve. J'ai vécu ce moment-là comme une trahison. Bah, t'expliquer pourquoi. J'ai eu l'impression qu'on m'avait masqué la moitié du monde. La moitié de la réalité.
Et t'avais pas fait le lien avec tu vas acheter le pain, tu donnes. Alors à l'époque, c'était des francs. Ouais,
mon mari, il hallucine quand je lui dis ça. Tu comprends bien que la cave, elle est au moins 2. Enfin, t'es bien descendu 2 étages, tu vois. Non, mais c'est plutôt le côté théorique, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit. C'était très clair. Je me suis dit, pour des raisons pédagogiques, on a d'abord choisi de nous apprendre ça comme ça. Mais en fait, ça m'a marqué dans le sens où je me suis dit, en fait, on peut maîtriser l'histoire et la compréhension du monde avec, en choisissant de te raconter qu'une partie de l'histoire. Et donc maintenant, ça a devenu un peu une hygiène de réflexion personnelle, de se dire, en fait, quand on entend une histoire, il faut quand même faire preuve d'esprit critique, tu vois, dire quelle est l'autre histoire qu'on pourrait te raconter à propos du même sujet. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y en a parfois pas que deux. Et donc voilà, c'était un moment de... réalisation, comme on dit plutôt de façon anglo-saxonne, mais qui m'a beaucoup marquée. Et d'ailleurs, même dans les cours d'histoire, après, ça m'a fascinée quand on apprend la propagande, par ouais. exemple, tu vois, la force des mots, la force des idées, la force des représentations. Bon, voilà, on retrouve du coup dans ce moment-là les choses qui me passionnent aujourd'hui et ce dont j'ai fait mon métier, mais. Et je vois bien qu'à même sujet, on peut se raconter des histoires différentes. Et il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est le sujet du viager. Viager, c'est un sujet pour beaucoup de gens qui est horrible, ils n'osent même pas l'entendre en se disant, en fait, on capitalise sur la potentialité de la mort de quelqu'un. Donc, t'achètes un appartement en espérant que vite, la personne disparaisse. Horrible. Et en fait, c'est une histoire possible, mais ça, c'est le monde du négatif. Là, pour le coup, il y aurait le monde du positif sur le viager. Tu pourrais aussi te dire, et moi, je le vois aussi comme ça, de dire c'est un sujet, une solution qui vient contrecarrer le fait que ce soit de plus en plus difficile pour des primo-accédants d'accéder à l'acquisition immobilière, qui est pourtant un levier de maturité financière important, et que tu pourrais dire que le viager, c'est une façon de faire de la transmission patrimoniale de génération à génération, ou d'aider des petits vieux à avoir un complément de fin de mois pour mieux vivre leurs derniers jours, et tu pourrais raconter cette histoire de façon hyper positive. Donc j'adorais bosser sur le narratif
du
vois
viager.
Qui fait du viager, comme tu le comprends, comme j'adorais. Je vois qu'Orpea, je parlais de la Maïf, Orpea vient d'être repris par la Maïf qui va y mettre, j'imagine, toutes ses nouvelles valeurs. Et donc, il y a un super narratif à faire ici aussi, je pense. Mais voilà, donc la claque, ça a été de réaliser
qu'il y avait deux facettes de l'histoire
et il y en a toujours deux, au moins.
Au moins. Pour terminer cette émission, si toi, tu avais dû choisir une sista, c'est-à-dire une femme entrepreneur à qui mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Ouais, alors j'aurais choisi quelqu'un qui s'appelle Camille Kiegemann, qui est une super entrepreneuse, qui a créé plusieurs boîtes dans sa vie, qui a un profil assez atypique, parce qu'elle a à la fois elle vient du monde du théâtre, elle a fait du business, elle a fait du coaching, etc. Elle a d'abord créé une société qui s'appelait Zogma, qui permettait dans le monde de la tech de créer en fait des espaces événementiels pour que les communautés de la tech se rencontrent. Donc elle a été l'initiative de l'espace de l'espace Hub BPI France, d'espace à Station F, etc. De l'animation, de la création de ces lieux. Hyper important hein, dans des marchés qui sont très écosystémiques. Voilà. Et là, elle a monté depuis 2 ans une nouvelle aventure entrepreneuriale que j'adore, et qui s'appelle la Maison des Histoires. Donc, elle est partie du postulat que l'apprentissage de l'histoire, la découverte des livres, c'est un facteur dans l'éducation hyper important pour que les enfants... et les futurs grands arrivent à se projeter dans des mondes possibles, et elle voulait réduire cet écart social sur l'accès à la lecture, etc. Et elle a dit, il faut arriver à faire vivre les histoires autrement que purement par la lecture. Et elle voulait créer des espaces dans lesquels les enfants allaient pouvoir vivre dans les monde imaginaire des histoires, donc à travers des expériences physiques. Voilà. Et donc, elle a créé la Maison des Histoires, qui est aujourd'hui dans le 7e arrondissement à Sèvres-Babylone. C'est le premier. Je crois qu'elle avait en ouvert un deuxième dans le 17e. Elle s'est associée à l'École des Loisirs, qui est une super collection de livres pour enfants, avec des super titres qui se transmettent de génération en génération.
Tout à fait.
Et ça cartonne, absolument. C'est booké tout le temps. Donc, il faut s'y prendre des mois à l'avance. C'est pour ça que c'est très important qu'elle en ouvre vite un deuxième lieu. Et c'est vraiment une nouvelle offre du jamais vu sur la façon de découvrir des histoires. Ça plaît aux enfants de 0 à 10 ans. Voilà, donc courez-y. Et Camille Kiegeman, c'est quelqu'un qui a un drive entrepreneurial très très fort. Beaucoup de gens dans le monde de l'immobilier, des espaces, etc., lui ont dit que pour ouvrir un lieu, il fallait minimum 5 ans, que les projets immobiliers, c'était très long. Elle a réussi à le faire en 1 an et demi. Donc chapeau à elle, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à raconter.
Eh ben, merci pour ce coup de projecteur et cette reco en même temps. Merci Caroline de
merci
t'être
beaucoup,
confiée
Solène.
À mon micro aujourd'hui. Merci à Sacha d'avoir soufflé ton nom.
Absolument.
Et à très bientôt.
À bientôt, merci.